accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, dernier jour de campagne en Italie avant les élections législatives qui auront lieu ce dimanche. Et ces dernières semaines, un pays s'est invité au cœur des débats, la Russie. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine au mois de février, le sujet anime l'actualité italienne. Mais cette fois, ce sont les partis politiques qui sont visés. Plusieurs candidats, en particulier à gauche, accusent la Russie d'ingérence dans la campagne électorale. Les détails avec notre correspondante Cécile Debarge.
Le comité parlementaire pour la sécurité de la République a beau se vouloir rassurant. Non, pour l'heure, aucun parti politique italien n'a reçu de financement de la part de la Russie. En Italie, l'idée est tenace au sein de la classe politique. Il faut dire qu'en fin de semaine, les services de renseignements américains annonçaient que 300 millions d'euros de financement russe ont été versés à des partis politiques à travers le monde. L'information a mis le feu aux poudres, notamment du côté de la gauche et des centristes. Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères, fait partie de ceux convaincus que la Russie finance des partis italiens.
Les ingérences russes, aucune certitude absolue, mais disons qu'il y a plus d'ombre que de lumière et il nous faudrait probablement une commission d'enquête parlementaire pour vérifier s'il y a des partis ou des hommes politiques qui ont des rapports malsains avec les Russes, c'est-à-dire des rapports politico-financiers avec les Russes.
Les soupçons se portent sur les partis de droite. Dans un entretien au quotidien La Repubblica, l'ancien ambassadeur américain à l'OTAN, Kurt Volker, pointe du doigt les deux partis d'extrême droite, La Ligue et Fratelli d'Italia. Or, La Ligue, le parti de Matteo Salvini, fait l'objet d'une enquête à ce sujet depuis l'été 2019, comme l'explique Eleonora Tafuro, spécialiste de la Russie et chercheuse auprès de l'ISPI, l'Institut d'études politiques internationales de Milan.
Il y a des accusations selon lesquelles la Ligue a reçu des financements de la part de la Russie. L'enquête est encore en cours, donc il n'y a aucune conclusion juridique sur ce cas. Mais le fait qu'un dossier ait été ouvert, que des enquêteurs analysent tout un tas de preuves, c'est très grave déjà.
Au-delà de cette enquête, le chef de file du Parti démocrate, Enrico Letta, a lui aussi dénoncé à plusieurs reprises les liens privilégiés entre la Ligue de Matteo Salvini et la Russie.
Ce qui est grave d'un point de vue politique et qui concerne Salvini et la Ligue, c'est le fait qu'ils ont un accord avec le parti Russie Unie qui dure depuis 2017 et jamais cet accord n'a été remis en cause. Moi, je me demande pourquoi je lui ai demandé et je vous le demande. Qu'il y ait eu des financements ou qu'il n'y en ait pas eu, ça touche au rapport politique entre la Ligue et Russie Unie.
La Lega et Russia Unita.
Matteo Salvini n'a jamais remis en cause l'existence d'un accord, mais selon la chercheuse italienne Eleonora Tafuro, il est avant tout symbolique.
Ce sont des pactes de collaboration entre les partis qui étaient très en vogue avant l'invasion, en particulier entre partis conservateurs et à l'égard de la Russie.
Autre élément qui ont ravivé les soupçons d'ingérence russe dans la vie politique italienne, deux affaires d'espionnage. Le commandant de la marine militaire Walter Bio, d'abord arrêté en 2021 pour avoir livré à la Russie une centaine de documents sensibles ou secrets concernant l'OTAN. Et puis, cet été, Adela, une jeune femme russe qui a infiltré le quartier général de l'OTAN à Naples avant de disparaître du jour au lendemain.
Chaque épisode contribue à renforcer l'image d'une Russie qui souhaite interférer, mais de l'autre côté, on a aussi une tendance de certains partis politiques italiens à récupérer ces événements à leur avantage.
L'irruption de la Russie dans une campagne électorale italienne n'est pas tout à fait nouvelle, rappelle Eleonora Tafuro.
Je pense qu'il faut regarder l'Italie dans un contexte international plus large. Et en 2018, on avait déjà des accusations au niveau international contre la Russie, en premier lieu de la part des États-Unis, ensuite de l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui disaient avoir été victimes de cyberattaques, de tentatives de désinformation.
La nouveauté, c'est évidemment le conflit en Ukraine qui a des répercussions concrètes sur la vie des Italiens avec la hausse des prix de l'énergie, à tel point que certains candidats comme Matteo Salvini s'interrogent sur le bien fondé des sanctions occidentales contre la Russie. Reste que pour les Italiens, plus que les ingérences russes, le sujet central de cette campagne aura été la vie chère et le prix de l'énergie. L'association de consommateurs Assoutenti estime que les factures pourraient doubler en 2023. L'Italie importait 40% de son gaz de Russie avant le début de l'invasion en Ukraine et toujours 25% aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement pour diversifier les sources d'approvisionnement.
Accogliamo con un grande applauso il leader del centrodestra italiano Giorgia Meloni.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui.
Giorgia Meloni, son nom est partout en Italie. La figure montante de l'extrême droite européenne s'est imposée pendant cette campagne électorale, créditée de 23 à 25% des intentions de vote. La jeune femme de 46 ans pourrait bien diriger le prochain gouvernement. Son parti post-fasciste, Frères d'Italie, est en tête des intentions de vote et sa coalition donnée largement gagnante. Portrait de cette ultra-conservatrice signé Juliette Garbrandt.
Entrée en politique à l'âge de 15 ans au sein des mouvements de jeunesse post-fasciste, Giorgia Meloni achève à la veille des élections de lisser son image extrémiste tout en soignant sa base idéologique. Si elle a renié le régime de Mussolini et ses lois raciales, elle rendait hommage en mai dernier à la mémoire de leur inspirateur, Giorgio Almirante. Et en juin dernier, elle participait en Espagne à un meeting du parti d'extrême droite Vox.
Sì alla famiglia naturale. Non à los lobby LGBT.
Oui à la famille traditionnelle, non au lobby LGBT, oui à l'universalité de la croix, non à la violence islamiste, oui au peuple souverain, non aux bureaucrates de Bruxelles. Et cette électrice rencontrée à Bologne, dans le centre de l'Italie, adhère.
C'est une femme, une mère, une chrétienne, elle représente beaucoup de femmes, des plus jeunes aux plus âgées. Et elle n'a jamais eu honte de sa famille, ni de ses origines modestes.
Giorgia Meloni et sa sœur ont grandi dans un quartier populaire de Rome, élevée par leur mère. Le père d'un milieu aisé est parti s'installer aux Canaries. Giorgia était enfant, sa mère plutôt à droite, son père communiste. Elle choisira de creuser le sillon maternel. Dieu, patrie, famille, sa devise résume son programme.
Je comprends la fascination,
répond Simona Lembi, candidate du Parti démocrate à Bologne.
Mais c'est trompeur de penser qu'une femme qui ne défend pas les autres femmes puisse les représenter. Giorgia Meloni et son parti n'ont pas voté les grands textes de loi favorables aux femmes dans notre histoire, sur la santé publique, sur les crèches, sur le travail. Oui, c'est vrai, c'est une femme qui veut diriger le pays, mais sur un modèle masculin.
Journaliste de formation polyglotte, Giorgia Meloni est élue députée en 2006 sous la bannière d'Alliance nationale. Elle rejoint ensuite le Peuple de la Liberté et Silvio Berlusconi fait d'elle la plus jeune ministre de la République en lui confiant le portefeuille de la jeunesse. Elle a alors 31 ans. Giorgia Meloni fonde Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, en 2012. Et presque 10 ans plus tard, quand Mario Draghi forme un gouvernement d'union nationale, elle refuse d'y participer. Son parti devient alors la seule force d'opposition à droite. Elle a su attendre son heure, comme l'explique le professeur de sciences politiques Carlo Galli de l'Université de Bologne, qui revient sur ses années dans l'hémicycle.
Giorgia Meloni aveva una retorica parlamentare populista.
Au Parlement, Giorgia Meloni avait une rhétorique populiste à la Pancho Villa, vraiment extrémiste. Mais comme c'est une personne habile, intelligente, elle a compris qu'elle devait se tenir un peu à l'arrière-plan, laisser les autres à droite se casser la figure pour récupérer aujourd'hui les voix des électeurs. Elle avait cela en tête. Elle sait très bien qu'en Italie, on ne fait pas la révolution. En parole, bah ça oui, Giorgia Meloni était incendiaire. Mais encore une fois, elle est très intelligente. Par exemple, elle ne s'est jamais fâchée avec Berlusconi. C'est quelqu'un qui sait très bien où se trouve le pouvoir.
Une habileté qui sera fort utile après le scrutin à cette proche du Hongrois Viktor Orban. En cas de victoire prévisible, les négociations avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi pour la composition d'un gouvernement seront complexes et suivies de près à Bruxelles, qui distribue les fonds de relance. Le programme de Giorgia Meloni prévoit de supprimer dans la Constitution une référence à la primauté du droit européen.
La propagande russe serait-elle en train de se fissurer? Face au dernier succès de la contre-offensive ukrainienne, le Kremlin a de plus en plus de mal à maîtriser sa communication officielle et notamment sur la toile. Sur les réseaux sociaux, les mercenaires de Wagner et d'autres membres de forces spéciales, souvent en première ligne face à la reconquête ukrainienne dans l'Est, s'autorisent des critiques de plus en plus virulentes vis-à-vis du commandement de l'armée russe qu'ils accusent d'incurie. Une liberté de ton inimaginable il y a encore quelques semaines, les explications de Léo Vidal-Giraud.
Ils se foutent de nous, écrivait la semaine dernière un journaliste russe, en réaction à un communiqué de presse parlant d'un redéploiement en bon ordre pour décrire la fuite de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Depuis la déroute des Russes la semaine dernière près de Kharkiv, les voix critiques sont de plus en plus nombreuses à se faire entendre. Autre exemple, ce message venu du compte Telegram Grey Zone, tenu par un mercenaire du groupe Wagner.
Avant-hier, le briefing quotidien du ministère de la Défense revendiquait encore un Sukhoi 25 ukrainien abattu. C'est le 100e et hier on a eu le 101e. Pourtant, l'aviation ukrainienne n'en possède que 45 et tout le monde est content.
Comme ce mercenaire, des chefs de guerre séparatistes ou encore des reporters de guerre affichent bien plus ouvertement leurs critiques que les soldats de l'armée régulière. Beaucoup appellent à la démission de l'état-major, du ministre de la Défense Sergueï Shoigu, et certains se risquent même à évoquer la responsabilité de Vladimir Poutine. La tendance est nouvelle, car dans un premier temps, l'invasion de l'Ukraine avait satisfait les nationalistes russes. Enfin, la guerre qu'ils appelaient de leur vœu était là, enfin on allait en découdre avec l'Occident et l'OTAN par Ukraine interposée. Sauf que depuis 6 mois, l'Ukraine résiste, et pire, elle contre-attaque. Et le mécontentement monte dans les milieux nationalistes. Il monte contre un commandement militaire jugé incapable, il monte contre le Kremlin, trop pusillanime pour décréter la mobilisation générale ou utiliser ses armes les plus dévastatrices. Et peu à peu, cette critique infuse dans les médias grand public, où certains experts et éditorialistes n'hésitent plus à appeler à la destruction totale de l'Ukraine, à la bombe atomique s'il le faut. Bien loin du discours libérateur des débuts, et très loin aussi de la rhétorique qui règne toujours au Kremlin, où l'on persiste à parler d'opérations spéciales et à minimiser ses conséquences sur la vie quotidienne. Un grand écart de plus en plus intenable pour le pouvoir russe.
Direction la Lettonie, l'un des voisins baltes de la Russie. Dans ce petit pays, la guerre en Ukraine a eu pour conséquence de réveiller les blessures de l'occupation soviétique de ce pays entre 1940 et 1941 et ensuite de 1944 à 1991. Pour se libérer de ces fantômes, le pouvoir a pris la décision de démanteler tous les monuments à la gloire de cette occupation soviétique. Fin août, le monument à la victoire de Riga a été détruit et d'ici mi-novembre, 69 statues ou stèles russes seront retirées de l'espace public. Le reportage dans la capitale Riga de notre correspondante Marielle Vituro.
Désormais, quand Yanis Lange, le directeur de l'administration de la ville de Riga, arrive dans son bureau, il se sent mieux. Depuis sa fenêtre, il ne voit plus que l'imposante bibliothèque nationale. Et derrière, le vide, la vue sur une grande pierre qui bouchait l'horizon, a disparu.
On ne voit plus rien. Depuis le 25 août, l'obélisque soviétique qui symbolisait l'occupation soviétique après la Seconde Guerre mondiale a disparu. Avant, elle était juste en face, à 1 kilomètre d'ici. Pour de nombreux Lettons, c'est un soulagement. Sa présence était contraire à nos valeurs. Nous avons été tolérants longtemps, mais depuis l'invasion russe en Ukraine, cela n'est plus possible.
Il y a 30 ans, peu après que la Lettonie est redevenue indépendante, les soldats de l'armée rouge ont quitté le pays. La condition à ce départ était de prendre soin des monuments que les soviétiques avaient laissés derrière eux. Avil Sacharaden s'est député à la tête de la commission éducation et culture. Il a été l'un des initiateurs du démantèlement des monuments.
La guerre en Ukraine a été un tournant. Le Parlement letton a agi et a décidé de dénoncer cet accord de manière unilatérale. Nous étions toujours les gentils et nous prenions soin de plus de 300 sites dans tout le pays. Mais à un moment, trop c'est trop.
La guerre en Ukraine a replongé les Lettons dans leur passé et les similitudes entre l'occupation soviétique et les exactions russes en Ukraine ont rendu toute marque extérieure de ce régime impossible à supporter. Le monument soviétique à la victoire à Riga n'a en fait été érigé qu'en 1985. Mais comme le souligne Karlis Dambitis, historien au musée de l'occupation à Riga, il n'a pris de l'importance que récemment.
La guerre en Ukraine a commencé de fait en 2014 et nous avons constaté que la Russie et l'ambassade de Russie ont commencé à utiliser ce type de monuments et les cimetières pour faire de la propagande. On ne peut plus parler de célébration historique car l'histoire est utilisée ici à des fins de propagande.
Les Russes ne parlent toujours que d'une libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale, niant les 50 ans d'occupation soviétique. Donc, face à la colère de plus en plus forte des Lettons, la destruction était devenue quasi inévitable. Igor Zgubenko enseigne la philosophie à l'université. Il fait partie de la communauté russophone de Lettonie, c'est-à-dire un tiers de la population environ.
Ma position était qu'il fallait peut-être penser ce monument différemment, peut-être
combattre, le transformer. Au début, la population n'était majoritairement pas pour la destruction, mais les gens ont commencé à repenser à la question et à soutenir le fait de se démarquer de la Russie, de ne plus rien avoir à voir avec l'occupation soviétique et l'occupation actuelle russe en Ukraine.
Le député Avil Sacheradens, un des initiateurs du démantèlement des monuments, se réjouit des changements qu'il a observés au sein de la communauté russophone. En Lettonie.
Pour la première fois à notre époque, nous avons vu que des jeunes gens de la communauté russophone se sont réunis près du monument letton de la liberté pour protester contre Poutine. D'une certaine manière, cette guerre pourrait lancer un nouveau processus pour créer une nation lettonne plus unie politiquement.
Cette année, une réforme de l'enseignement a été lancée pour réunir lettons et russophones dans les mêmes écoles. Quant au lieu où se trouvait la fameuse obélisque, au milieu d'un immense parc cerné par des quartiers résidentiels, une concertation sera bientôt lancée entre la mairie de Riga et les habitants de la capitale lettonne pour décider ce qu'il faut faire du site. Depuis la création du parc de la Victoire au début du XXe siècle, le lieu a toujours été lié aux guerres. Pour beaucoup, il est désormais temps de passer à autre chose.
Elle a fait l'objet d'un film et fait partie des 10 personnes les plus recherchées au monde. Ruja Ignatova, également surnommée reine des crypto-monnaies. Cette Bulgare a détourné plus de 4 milliards d'euros après avoir créé en 2014 le OneCoin, une monnaie numérique, en réalité une fausse devise qui cachait un système pyramidal frauduleux, mais qui a piégé pas moins d'un million de personnes. Son portrait par Damien Vodenicharov.
Au sommet de sa gloire, Ruja Ignatova fait la une de Forbes et participe aux conférences organisées par The Economist. C'est une rockstar de la nouvelle finance qu'elle dit vouloir démocratiser, tout en organisant des galas à Londres où elle apparaît comme tout droit sortie d'un conte de fées.
Applause, please!
This girl is on fire!
Ruja, where are you? Ruja!
Le docteur Ruja, comme elle aime se faire appeler, ne laisse rien au hasard, surtout son apparence. Elle porte une très longue robe de soirée rouge, son maquillage est impeccable, sa coiffure est sophistiquée. Et c'est normal, parce que ce qu'elle veut, c'est vendre du rêve. Le rêve d'une nouvelle crypto-monnaie qui serait accessible à tout le monde, OneCoin, tout en atteignant une capitalisation stratosphérique, bien entendu.
Certaines crypto-monnaies sont plus puissantes que nous, d'autres sont mieux connues, mais nous les rattrapons. Notre capitalisation boursière est de 4,5 milliards de dollars. Nous avons encore du chemin à faire pour rattraper Bitcoin avec ses 8 milliards, mais nous les rattrapons à toute allure.
En fait, OneCoin n'est même pas une crypto-monnaie puisqu'elle ne repose pas sur la technologie de la blockchain. Cette base de données impossible à falsifier en constitue le fondement. OneCoin est en fait un système de Ponzi reposant sur la vente multiniveau où les revenus sont générés par les nouveaux investisseurs. Et plus il y a d'investisseurs, plus les revenus augmentent. C'est cette tactique de vente qui a permis à Ruja Ignatova d'acheter un appartement de 15 millions d'euros à Londres et un yacht de plus de 7 millions de dollars accosté à Sozopol en Bulgarie. Avant de devenir multimillionnaire, Ruja Ignatova fait des études à Oxford et à Constance, d'où elle sort avec un doctorat en droit international. En 2010, elle rachète une usine de métallurgie en Bavière avec son père. L'entreprise fait faillite 2 ans plus tard. Et en 2012, Ignatova est reconnue coupable de fraude lors d'un procès en Allemagne. Elle refait surface en 2014, lorsqu'elle lance son projet OneCoin. 3 ans plus tard, elle est recherchée pour fraude par les autorités américaines. Elle empoche alors 4 milliards d'euros et disparaît. Depuis, elle est en cavale. Elle semblait avoir réapparu en Grèce en juillet 2022, mais la police grecque est restée les mains vides. Aujourd'hui, les experts estiment que son système de Ponzi aurait pu servir à blanchir de l'argent de la mafia et que OneCoin aurait pu générer bien plus que 4 milliards d'euros de revenus.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous dès demain ou quand vous voulez sur notre site rfi.fr. Abonnez-vous à notre podcast.